Rendez-vous de midi, une émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi. Rendez-vous de midi, une émission conçue par Thierry Fabre avec Elisabeth Sestor. Et donc au sommaire de cette édition, trois temps comme toujours, musique, littérature, débat d'idées. La musique, rendez-vous autour de la musique iranienne avec un entretien depuis Téhéran avec Ariane Zevaco, entretien réalisé par Elisabeth Sestor qui nous présente quelques fragments de la musique iranienne d'aujourd'hui, de ce que l'on entend à Téhéran. Littérature, un moment poétique autour du livre de Robert Little, L'Hirondelle avant l'orage, et du grand poète Ossip Mandelstam, confronté à la brutalité et à la violence de Staline, et une actualité Arthur Rimbaud avec la publication de l'ensemble des textes d'Yves Bonnefoy, Notre besoin de Rimbaud, et les œuvres complètes de Rimbaud, la nouvelle édition de la Pléiade. Enfin, un troisième temps, débat d'idées, autour du numéro de La Pensée de Midi, l'Iran derrière le miroir, rencontre qui s'est tenue à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône le 14 avril en présence de Christian Bromberger, Azita Enpartian, Agnès De Victor et Mina Saïdi Charouz. Au rendez-vous de midi, trois rendez-vous de musique, de littérature et de débat d'idées.
بعد یه مدت یکی پیدا شد هی بهونه منو میگیره عاشق تستم و دلو به تو بستم و بی تو دل خستم میمیره میگمش دیگه مرده دلم رو برده یه درد دیرینه آخه امروز و فردا
تو من منم فکر تو من منم فردا تو توی فردا من منم هر جا میشینی منم هر چی میچینی منم چیزی میبینی منم چیزی میشنوی منم تو خیالت منم همین حوالی منم حد عاشقی توی حرف بیخیالی منم اگه تو نباشی من بیغم ها میشینم اما تو میگی که اینجا بی تو تنها میمیرم
دیگه نمیخوام یادت واسه من باز خاطرشه دیگه نمیخوام راه من با عشقت فاصلشه بعدت بی حوصله‌شه دیگه نمیخوام حالا هرچی که میخوام بزه همون بشه
آره باز با منی میدونم خواست دارمی میدونم داستانمی هر جا پاسبانمی میدونم تو راستی راستی منو خواستی خواستی رویا تو ساختی ساختی وقتی نبودم تو باختی بی تو خوشحالی ببین با من چه کرده شبا گرده دیگه نمیگم من چه سرده بی تو میمونم میکنم کیفم میشه با تو بمونم میدونم حیفم میشه صبح و شب تو خوابتم یادت حرفا وقتی تو شبات نیستم یارت دردا من بی تو میرم تو هم دنبالم بیا آره فکر کن از اینکه با منی خوشحالم بیا
بعد یه مدت یکی پیدا شد هی بهونه منو میگیره میگه عاشق تستم و دلو به تو بستم و بی تو دل خستم میمیره میگمش دیگه مرده دلم رو برده یه درد دیرینه آخه امروز و فردا اون توی غم ها کنار دردم میشینه دیگه نمیخوام یادت واسه من باز خاطرشه دیگه نمیخوام راه من با عشقت فاصلشه بعدت بی حوصله شه دیگه نمیخوام حالا هرچی که میخوام از همون بشه
اومدی میبافی واسم آسمون ریسمون میگی جداییم شبا واسمون خیس بود دروغ میگی شبای من خشک خشکه دورو ور زندگیم یه مشت کشته کشته ها میانی دلو میبرن خریدنی یه ببین دلو میخرن شما ادامه بده به قصه خاریتون چون واسه خرید نمیرسه واسه مالیتون چه میشه که میام میشم همدم غم ها تنهایی شاید شدم همدم شب ها دوباره شروع میشه از سر قصه چون داستان من و ما وصلن وصله
بیا عاشق تستم و دلو به تو بستم
رویا تو ساختی ساختی نبودم تو باختی
عاشق تستم و دلو به تو بستم و بی تو دل خستم
Vous venez d'entendre le groupe Bibak, un groupe de rap iranien qui introduit cette partie musicale de l'émission du mois de mai 2009 du Rendez-vous de Midi. une émission spéciale autour de l'Iran à l'occasion de la parution du dernier volume de La Pensée de Midi, L'Iran derrière le miroir. Dans ce numéro, Ariane Zevaco, spécialiste des musiques des pays de langue persane, nous a livré un texte sur la vitalité des musiques traditionnelles en Iran. Pour cette émission, elle a sélectionné pour nous quelques-unes des musiques les plus populaires actuellement en Iran, du rap au style plus traditionnel. Elle nous le présente maintenant depuis Téhéran où nous l'avons jointe par téléphone. Alors Ariane Zevaco, nous avons commencé cette séance musicale avec du rap en persan. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi ce titre et quelle place ce genre musical tient-il dans la vie actuelle des Iraniens ?
Alors donc le rap c'est une musique assez nouvelle en Iran puisque ça fait peu d'années en fait que ça existe vraiment et que c'est produit en Iran. Ça fait une dizaine d'années à Téhéran. Et peut-être même moins, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une musique dont le mode de diffusion et de production est très spécial, puisque c'est uniquement diffusé par l'Internet. Et donc il y a énormément de jeunes, bien sûr, ça touche beaucoup plus la culture urbaine, qui écoutent du rap, mais ça passe uniquement par l'Internet, en téléchargement. Donc il n'y a aucun copyright, il n'y a pas de CD qui sont produits. Et beaucoup d'artistes aussi le font depuis Dubaï, depuis le pays du Golfe.
Et apparemment, il y a une grande diversité musicale. On entend du rap, on entend de la pop, mais on entend aussi beaucoup de styles dits traditionnels qui restent très populaires. Et donc, vous avez choisi un très grand musicien qui est maintenant décédé et qui était de la région du Khorasan, Mohamed Hossein Yeghani. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce chanteur et puis aussi de cette région de l'Iran, le Khorasan ?
Oui, alors Yeghani, c'était un très très grand maître du dotar du Khorasan, du nord du Khorasan, puisqu'il y a plusieurs types. Oui, le dotar, c'est l'instrument dont il joue, qui est un instrument à deux cordes. Et le Khorasan, c'est une très très grande région d'Iran, donc il y a plusieurs styles de dotar, et il y a plusieurs styles de chansons, mais ça fait partie des répertoires régionaux. Donc, qu'on appelle ici régionaux en Iran, donc de musique populaire. Et Yeghani, il est décédé en 91, je crois bien, et il a encore, il y a beaucoup de gens qui ont étudié avec lui, donc il a des élèves qui continuent à jouer ce répertoire. Mais c'était aussi une époque où tous ces gens-là, qui s'appellent on pourrait dire des bardes, chantaient uniquement pour la musique et eux-mêmes disaient à la fin de leur vie que c'était quelque chose qui n'existerait plus tard, que c'était quelque chose qui serait plus possible, que le monde changeait et que de jouer simplement comme ça pour les gens, pour la musique, ce serait quelque chose qui disparaîtrait. Et dans un certain point de vue, ils ont eu assez raison, mais ils ont quand même beaucoup eu de disciples qui continuent ce travail et à jouer cette musique, même si c'est dans des cadres différents.
Très bien, alors on écoute Mohamed Hossein Yeghani.
Thank you.
Maintenant, un dernier morceau pour terminer cette séance musicale du rendez-vous de midi autour de la musique iranienne avec Ariane Zevaco en direct de Téhéran. Vous nous avez choisi cette fois-ci l'une des stars de la chanson iranienne, Mohamed Reza Shajarian. Alors, pouvez-vous nous introduire ce morceau qui est plutôt dans le style traditionnel mais qui apparemment est très populaire et plaît beaucoup?
Oui, alors c'est un morceau de Shajarian. Shajarian, c'est le très grand maître du chant dans la musique classique iranienne. Je pense que les gens prendraient très mal si on disait que c'était de la chanson ici. Donc c'est le plus grand chanteur depuis 40 ans de la musique classique iranienne. Et qui continue à donner des concerts et qui, bien qu'il ait qu'il soit passé par énormément de styles et qu'il ait beaucoup changé en fait la façon dont il faisait de la musique il y a 30 ans, c'est toujours le très grand maître. Et cet album qui s'appelle Shab Sukut Kavir, ce qui veut dire la nuit, le silence, le Kavir. Kavir, c'est un des très grands déserts iraniens. A eu énormément de succès quand il est sorti, donc c'était en 1994. Et Shajarian a fait pour cela une collaboration avec Hoj Rolban Soleimani, qui est un très grand joueur de dotar du Khorasan. Et c'était aussi une façon d'aller vers les musiques populaires, donc d'essayer de faire une rencontre entre deux répertoires très différents et dont souvent on a opposé les différences de statut. Il y a aussi tout un travail de composition donc par Kayran Carroll. Mais ici, Shajarian en fait chante en adoptant un style de voix qui est beaucoup plus proche du style du chant du Khorasan, et qu'on peut très bien comparer avec le morceau qu'on a entendu de Yegorné, et où il a travaillé sa voix pour aller vers ce style-là, mais sans perdre toute sa structure du radif, même si ici c'est de la composition, on n'est plus dans la musique savante iranienne. Et ce disque est très très apprécié par les Iraniens, toujours, parce que pour eux, ils montrent justement cette rencontre. Pour eux, c'est un symbole de ce que peut être, ce qu'il peut y avoir de mieux en Iran en musique. C'est-à-dire une rencontre qui a produit quelque chose de bien, parce qu'il y a énormément de collaborations entre musiciens, mais souvent ça ne plaît pas aux musiciens et ça ne plaît pas aux gens non plus. Et ici, c'est vraiment l'exemple de quelque chose qui a très bien réussi, puisque ça a plu et au public et aux musiciens. Et c'est vrai que Shajarian a eu énormément d'influence là-dessus, essayer de rencontrer les différentes cultures musicales qui existent en Iran.
Merci beaucoup Ariane Zevaco de nous avoir introduit dans cet univers musical en Iran qui est assez complexe et qu'on ne connaît pas très bien par ici. Merci et à bientôt.
بس خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنید. آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید. تا بردمد خورشید نو شب راز خود بیرون کنید.
Au sommaire de la partie littérature aujourd'hui de ce rendez-vous de midi, de la poésie avec Ossip Mandelstam à l'occasion de l'apparition du livre de Robert Little, L'Hirondelle avant l'orage, et la grande figure de Rimbaud autour de l'apparition du livre d'Yves Bonnefoy, Notre besoin de Rimbaud, et des éditions complètes, la nouvelle version des éditions complètes d'Arthur Rimbaud aux éditions de La Pléiade chez Gallimard. Alors d'abord, Ossip Mandelstam, immense poète russe, à travers ce livre extrêmement original qui s'appelle L'Hirondelle avant l'orage, composé donc par Robert Little autour de différentes voix et qui rend compte de la terreur stalinienne et de la confrontation de ce poète génial qui était Mandelstam, qui a écrit non pas une ode à Staline comme ça se faisait dans les années 30, mais au contraire un poème, une verve et une satire extrêmement violente qu'il lui vaudra l'enfermement. Donc ce choix de l'hirondelle vient de ce vers de Mandelstam, et chacun effectuera avec son âme, telle l'hirondelle avant l'orage, un vol indescriptible. Et ce vol indescriptible, eh bien, Mandelstam l'a traversé à partir de son œuvre et de ce rapport politique l'Union soviétique stalinienne dans ses pires années. Et ce livre fait découvrir la terreur vécue au quotidien par un poète. Un extrait pour entendre cet élément formidable pour comprendre de l'intérieur ce moment stalinien de la Russie soviétique. Donc Ossip, jeudi 17 mai 1934. Avec le recul, je me rends compte qu'une arrestation est une expérience merveilleusement libératrice. Elle vous libère de la terreur de vous faire arrêter. Être libéré de la terreur de se faire arrêter a un revers. Cela vous oblige à vous concentrer sur de moindres terreurs. D'où viendra votre prochain repas ou votre prochaine cigarette ? Qu'arriverait-il si votre muse ou votre érection disparaissaient sans laisser d'adresse? Comment ceux que vous aimez survivront-ils si l'État, dans son infinie sagesse, décide qu'ils sont plus utiles en tant que plus proches parents du défunt? Quel serait l'effet sur la réputation littéraire du poète si on découvrait que la terreur le terrifiait? Je me concentrais sur les moindres terreurs lorsque l'officier chargé de mon arrestation déposa mon corps en sueur dans l'enceinte de la prison de la Loubianka et demanda à quelqu'un de signer un récépissé. Livre extraordinaire de Robert Little, si on veut à la fois partager le génie de Ossip Mandelstam et découvrir la brutalité, la violence de ce grand moustachu meurtrier, le petit père des peuples, alias Joseph Staline. Alors, autre confrontation de la poésie à travers cette immense figure de Rimbaud dont on semble avoir tout dit, et pourtant il y a toujours des choses à découvrir, à redécouvrir. Rimbaud, qui, il faut le rappeler, est passé souvent par Marseille dans ses grands voyages et jusqu'à son dernier voyage, puisqu'il est mort ici à Marseille. Et donc les éditions du Seuil nous font découvrir un texte magnifique d'un ensemble de textes du grand poète Yves Bonnefoy qui s'intitule « Notre besoin de Rimbaud » et qui rassemble l'ensemble des essais que Bonnefoy a pu écrire sur Rimbaud, où il dit ceci dans son avant-propos. « Je crois qu'en tout cas je puis dire à propos de Rimbaud, c'est qu'aucun autre que lui ne m'aura requis en poésie par autant d'intensité, d'immédiateté, de proximité dans sa voix. Voix qui elle-même demande, voix qui affirme et bien sûr se trompe, mais se reprend vit de se reprendre, porté, secoué par les deux grandes forces qui font que l'on est au monde, et Rimbaud l'aura été, malgré vite ses cris de désespoir. D'une part, l'espérance, qui veut croire possible que l'existence soit un partage, et donc que la vie ait un sens. D'autre part, la lucidité, qui déconstruit les illusions successives en quoi l'espérance s'enlise, mais aussi bien l'aide à s'approfondir, à se clarifier, à se faire, si je puis dire, espérance pure, irréductible dès lors à tout effondrement de ses tentatives. Espérance et lucidité, c'est le titre que j'aurais pu donner à ce livre, parce qu'il condenserait l'évidence que je dégage par essai et erreur de la lecture du bateau ivre d'une saison en enfer. Mais j'en ai préféré un autre, parce que m'alarme de plus en plus un certain déni que je vois qui se répand aujourd'hui de l'intuition proprement poétique, à cause d'une lucidité mal fondée, dont la conséquence est un renoncement désastreux à l'espérance. Et parce que s'inquiéter ainsi, c'est savoir à quel point Rimbaud, que l'heure présente lit peu ou mal, est et va rester nécessaire. Cet besoin de Rimbaud que nous fait partager Yves Bonnefoy avec cette exigence et de la lucidité et de l'espérance, si on veut retrouver l'immensité des textes et de l'ensemble des œuvres de Rimbaud, de ses lettres, des textes de sa sœur, de ses brouillons d'élèves, de toute la richesse documentaire et du travail sur le fond, sur l'œuvre de Rimbaud, il faut se plonger absolument dans la bibliothèque de la Pléiade avec cette nouvelle édition placée sous la direction de André Guyot avec la collaboration d'Oriola Cervoni. Rimbaud, œuvre complète aux éditions Gallimard. Et maintenant, l'Iran derrière le miroir, rencontre enregistrée le mardi 14 avril à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône avec Christian Bromberger, Azitan Partian, Agnès De Victor et Mina Saïdi Charouz.
Maintenant, on se tourner vers Christian Bromberger, qui s'il veut bien prendre un micro, qui est donc à coordonner ce dossier de la pensée de midi, l'Iran derrière le miroir, donc l'objectif c'était de sortir des lieux communs, des clichés. Donc on a eu trois interventions qui donnent des fragments, circulation des désirs, réalité urbaine, du rap et de la musique contestataire avec des jeux. On entend aussi beaucoup parler d'interdits. Alors, je me souviens d'une conversation il y a 2 ans, je crois, Christian Bromberger, c'était à Istanbul. Vous m'expliquiez que vous voyiez se mettre en place une forme de société totalitaire, avec notamment le contrôle avec les paraboles qu'il s'agissait d'enlever sur tous les toits. Et donc, on voit effectivement cette emprise, ces interdits, et en même temps, on a l'impression que cette société est loin d'être inerte. Donc c'est peut-être la première façon d'entrer dans ce numéro à travers votre lecture de la société iranienne contemporaine et par exemple de ces brèves de taxi qui ouvrent ce numéro. Christian Bromberger.
Oui, merci Thierry. C'est vrai que c'est un pays compliqué. C'est un pays compliqué, on a toujours l'impression de ne rien comprendre. Si je devais le définir, puisque c'est ce que vous demandiez par une formule un petit peu abrupte et caricaturale, je dirais que c'est un pays ariano-chiite occidentalisé.
Ça suppose quelques éléments d'explication.
Ça suppose peut-être quelques éléments d'explication. Ariano, parce que les Iraniens, bon, Iran, ça veut dire Iran Veg, c'est le pays des Ariens. C'est donc cette revendication d'iranité et d'arianité face aux voisins arabes qui sont...
Avec l'expression d'un nationalisme extrêmement puissant.
Un nationalisme extrêmement puissant, valorisant les origines, un peu comme en Grèce ou comme en Chine, pays à haute historicité et très fier de son passé pré-islamique, qui a été remis en cause un petit peu après la Révolution, mais aujourd'hui qui est également valorisé par l'archéologie, qui est la discipline... valorisé en Iran par rapport à d'autres. Et alors, ça, c'est vrai que...
Ariano-chiite, alors.
Ariano-chiite. Depuis le XVIe siècle, l'Iran est chiite, avec et forme donc une communauté particulière. Il y a 85% de la population qui est chiite et 15% environ sunnite. Et donc, c'est le pays qui est le centre de l'espace chiite, même si les lieux saints les plus importants sont en Irak, qu'il s'agisse de Najaf ou de Karbala, et avec donc ce sentiment d'unicité, de spécificité, de grande civilisation, et en même temps occidentalisée, parce que c'est vrai que les modes de vie à Téhéran ne sont pas les modes de vie que l'on pourrait connaître dans une bourgade reculée du Tadjikistan, mais véritablement en prise sur l'Occident, sur ses techniques et sur ses manières de vivre.
Alors vous parlez de Téhéran, mais bon, c'est certes très important, c'est la capitale, c'est le lieu phare, mais bon, ce n'est pas toute la société iranienne, donc je sais que vous connaissez bien le Gilan et d'autres provinces d'Iran. Donc peut-être pour rentrer un peu dans cette complexité qui a permis de composer ce numéro, effectivement, où par exemple on parle effectivement de l'Iran sunnite qui n'a quasiment pas voix au chapitre et qui fait sérieusement problème pour des raisons politiques de voisinage qu'on peut imaginer. Donc occidentalisé, est-ce que ça se limite à Téhéran? Est-ce que c'est le cas d'autres grandes villes? Et puis, peut-être entrons un peu dans la complexité de ces sociétés iraniennes avant d'aller cheminer de portrait en portrait, puisque c'est un peu le parti qui a été choisi pour composer ce numéro, pour rendre un peu les prismes de cette société iranienne. Christian Bomberger.
Oui, alors c'est vrai, vous parliez de pays totalitaires, c'est aussi quelque chose que l'on peut dire et que l'on dois dire. Moi, le dernier mois où j'étais à Téhéran, donc en juillet 2008, il y a eu quand même 150 000 interpellations par Amarkan.
150 000
interpellations, oui, donc par les brigades de la guidance islamique pour des gens qui étaient mal habillés, qui n'avaient pas des vêtements conformes. Ça ne veut pas dire qu'ils aient été emmenés en prison, hein, mais ils étaient interpellés par des volontaires qui leur disaient de se remettre dans des conditions vestimentaires plus convenables. Bon, donc il y a ça, mais il y a en même temps un peuple qui est passé maître dans l'art de mettre le pied dans la porte. Et donc de savoir
l'art de la ruse.
Oui, la ruse, la métisse presque grecque est vraiment très développée en Iran, avec cette capacité, comme nous le disait Mina tout à l'heure, dès qu'il y a par exemple une cérémonie religieuse, de savoir la transformer en un lieu où on peut discuter d'autre chose dans les préparatifs avant ou après, donc dès qu'il y a la possibilité de faire une pièce de théâtre, de la faire et de la représenter, quitte à ne la représenter que dans un festival d'avant-garde, mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre d'acquis. Et puis, c'est vrai que c'est une société extrêmement complexe et diverse et bigarrée. Et là, je voudrais remercier la Pensée de Midi pour son hospitalité, et Thierry en particulier, parce que quand on a parlé de ce projet, j'ai écrit à 17... plus moi, donc à 16 plus moi, collaborateurs ou auteurs, en leur disant: est-ce que vous voudriez bien faire un portrait? Parce qu'on s'est dit avec Thierry, le meilleur moyen de rendre compte de cette diversité, c'est de présenter des portraits de gens différents dans cette société. Et puis, manque de chance pour le volume de la revue, tout le monde a répondu oui. Alors j'étais un peu embêté parce que, en même temps, c'était un grand bonheur, mais un petit malheur éditorial aussi, parce que ça gonflait progressivement le numéro. Et je remercie Thierry et son équipe d'avoir accepté d'enfler un peu le volume habituel du numéro pour accepter ces différentes contributions.
C'est-à-dire qu'il y a tant de choses à dire sur la société iranienne que l'on ne connaissait pas.
Mais oui, et puis il en manque encore, d'ailleurs. En lisant la revue, en la relisant, je me dis, tiens, ça manque un peu d'ouvriers, de paysans. On a essayé de dépasser les clichés où il y aurait d'un côté le mollah en turbané et de l'autre côté la palme d'or à Cannes, puisque ce sont les deux représentations qu'on a habituellement de l'Iran, donc de voir des choses plus complexes, plus intermédiaires.
Alors par exemple, parlons des brèves de taxi et de l'alpiniste avant de parler de la réalité urbaine.
Ben, des brèves de taxi, c'est vrai que, bon, moi, comme j'habitais dans le quartier résidentiel et que je descendais tous les jours plus dans le sud, j'avais une heure ou une heure et demie de trajet avec les chauffeurs de taxi qui me racontaient des choses très intéressantes, parce que le chauffeur de taxi, à vrai dire, ça n'est pas un taxi forcément de profession.
Est-ce que c'est un pays où on raconte des blagues?
Ah, c'est un pays où on raconte beaucoup
de
blagues.
Important.
L'humour et l'ironie en Iran. Alors là, ça avait été d'ailleurs le thème d'un de mes premiers articles, vous me rajeunissez, mon cher Thierry, qui était sur les blagues ethniques en Iran, parce que véritablement, c'est un régal. Donc, je vous en raconterai après si vous êtes sage.
Et ce sera le dessert.
Ce sera un dessert, oui, une cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai que ces chauffeurs de taxi, ça peut être des professeurs qui complètent leur leur médiocre salaire et qui donc vous parle aussi bien de la situation politique que David Genstein qu'ils ont lu, que de la dissociation entre le politique et le religieux. Ça peut être aussi simplement des chauffeurs de taxi de profession, mais qui sont passionnés par la poésie, parce que en Iran, ce qui compte avant tout, c'est la poésie, c'est ça le grand art national. Et par ailleurs, ça peut être aussi des chauffeurs de taxi qui aiment bien boire une petite vodka en regardant un film à travers une antenne parabolique et qui, du coup, ont pris 40 coups de fouet parce qu'ils ont été dénoncés par le concierge. Donc, toute cette série d'histoires qui campent un peu la diversité de cette société apparaissent à travers les chroniques des chauffeurs de taxi.
Alors, autre figure assez étonnante, l'alpiniste.
Alors, l'alpiniste, c'est vrai qu'il y a des espaces de liberté qui sont conquis. Là, il y a un article d'Éric Boutrois intéressant sur les jeunes alpinistes à Téhéran. L'alpinisme, c'est un endroit qui est moins... les montagnes qui entourent Téhéran sont moins surveillées que le centre-ville. Et donc, les jeunes gens et les moins jeunes en profitent.
C'est un lieu de la mixité ?
C'est un lieu de la mixité, contrairement aux autobus où il y a d'une part un compartiment pour les hommes, un autre pour les femmes, y compris le métro, sauf quand nous rusons, Mina, pour aller au sanctuaire de l'imam, où nous étions dans le même wagon, si je me rappelle bien. Je crois que le dernier wagon peut être mixte, il y a quelques tolérances vis-à-vis de ça, mais enfin, sans ça, c'est vrai que c'est un pays de division sexuelle des espaces extrêmement marquée, mais que dans les montagnes, eh ben, les frontières entre les espaces masculins et féminins s'estompent et que l'on peut la grignoter aussi des libertés et que l'alpinisme, le sport en général d'ailleurs, est un espace de contestation de ces frontières.
Bon, on a présenté à l'occasion des rencontres d'Averroès le film Hors-jeu, d'ailleurs, oui. Chez les Winners, ici, c'était assez intéressant avec Christian Bamberger. Donc peut-être quelques mots justement sur le football et le sujet de ce film, qui sont des femmes qui veulent accéder au stade et qui n'y parviennent pas. Donc c'est une grande passion collective apparemment.
Bah, le football est une grande passion collective et vous comprenez pour...
C'est une grande passion pour Christian Bamberger aussi.
Oui, aussi, oui. Donc là, j'ai pu associer mes passions pour le football et pour l'Iran, dans la mesure où c'était véritablement un sujet anthropologique du plus haut intérêt, parce que les femmes souhaitent assister au spectacle des grands matchs de football, et ça leur est interdit. Ça leur est interdit alors qu'elles peuvent regarder des matchs à la télévision, mais il y a sur le plan des sports une coupure très nette entre les activités aussi féminines qui sont permises, mais uniquement devant des femmes, et puis, d'autre part, donc, les sports masculins, qui sont pour la plupart d'entre eux, interdits de spectacle pour les femmes. Et donc, il y a là des manifestations qui sont bien rendues dans le film de Jafar Panahi, Offside, Hors-jeu, que vous avez peut-être vu, où il montre ces femmes qui essaient d'accéder au grand stade de Téhéran, le stade Azadi, le stade qui signifie Azadi, ça veut dire la liberté, donc on peut se poser des questions là. Et donc, et qui sont interdites de stade parce que, alors pourquoi, à la fois pour ne pas voir un corps masculin dénudé, même si dans le cadre du foot il n'est pas tellement dénudé, et d'autre part pour les protéger, paraît-il, de l'ambiance qui règne dans les stades, où évidemment, comme ailleurs, le juron fleurit à l'égard de l'adversaire ou à l'égard de l'arbitre.
Alors voilà quelques fragments supplémentaires pour entrer dans la complexité et les paradoxes de cette société iranienne. Alors, Mina Saidi, entrons justement dans la réalité urbaine, notamment de Téhéran. Donc, vous nous avez donné un très beau texte sur les nouveaux parlavans de Téhéran, à travers deux figures, Rasoul et Fatemeh, qui sont un peu ce que vous appelez les nouveaux chevaliers de ce quartier déshérité, qui font qu'au fond que de Téhéran, qui s'appelle Cyrus, qui font au fond que cette société iranienne ne craque pas et qu'il y a un tissu social, une réactivité assez grande. Et c'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir de cette société que l'on suppose, que l'on voit, que l'on entrevoit, avec, encore une fois, avec nos clichés, qu'une société plutôt soumise. Donc il semblerait que ces personnages ne le soient pas vraiment et que Fatemeh en particulier explique que la rue appartient aussi aux femmes. Parlez-nous un peu de ce personnage de Fatemeh qui, dans ce quartier de Cyrus, et qu'est-ce qu'elle fait et comment elle se mobilise. Et elle est au fond extrêmement contemporaine, qu'on renvoie l'image de la ville telle qu'on peut la connaître ici, d'une certaine façon.
Elle est contemporaine, mais si vous la voyez, elle est très islamique. C'est une femme qui est élevée dans l'islam.
Donc attention aux apparences.
Attention aux apparences, elle a un voile noir. Quand on la voit dans la rue, elle a même honte de marcher avec moi parce qu'elle trouve que je ne suis pas bien couverte. Mais elle fait des choses incroyables quand elle entend qu'une femme a été victime d'une violence conjugale. Elle part, elle va voir le mari, elle discute, elle fait des procès-verbaux. Enfin, c'est incroyable cette façon de protéger le statut de la femme. Et donc,
il y a eu un livre qui s'appelait La liberté sous le voile. Ça existe d'une certaine façon.
Pour elle, c'est pas une liberté. C'est même pas. On peut pas dire liberté. Pour elle, c'est l'image de la femme qui. Elle a un petit pouvoir parce qu'elle fait partie du conseil de quartier. Et avec son pouvoir, elle veut faire quelque chose pour les femmes. C'est sa volonté. Et elle-même, elle fait partie des autres femmes. Elle est pas différente des autres. Mais elle a envie que ça avance. Et je pense que c'est ces personnages-là qui font avancer vraiment la société depuis la base.
Une sorte d'auto-organisation de ce quartier. Alors j'imagine que ça a lieu dans ce quartier, mais vous, en tant qu'urbaniste, vous avez vu ça dans d'autres espaces, à Téhéran et en dehors de Téhéran?
Oui, je commence à voir parce que, bon, comme on a... Christian Bomberger était à Téhéran, notre directeur, donc il nous poussait à faire des monographies de quartier. Et en fait, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est en faisant ces monographies qui paraissent très petites, peut-être pour les grands projets urbains.
C'est une sorte d'observatoire urbain.
Mais c'est là qu'on voit tout l'énergie, tout le dynamisme qu'il y a dans la ville et sur lequel on peut s'appuyer pour faire quelque chose. Il ne faut pas inventer quelque chose qui n'est pas possible alors qu'il y a tous ces potentiels qui est là.
Oui, il y a tous ces héros du quotidien qui animent la ville. Avec en même temps une floraison mais incroyable de ce que les gens appellent des NGO, c'est-à-dire des NGO, c'est-à-dire des ONG, des organisations non gouvernementales, où les gens essaient de se prendre en charge et donc d'améliorer le quotidien, ce qui marque aussi la faiblesse des camps intermédiaires en Iran. C'est un peu un substitut des camps intermédiaires qui manque. Et là, donc, il y a ces initiatives locales qui méritent d'être prises en considération, en voyant bien en même temps, et c'est là parfois qu'on rejoint l'aspect un peu totalitaire du pays, un peu, même beaucoup, c'est que très souvent, quand une association se crée spontanément, de la base, il y a immédiatement une autre association qui est créée du côté du gouvernement. C'est un modèle qu'on connaît aussi un petit peu en Syrie, où il y a toujours ce doublon pour contrer l'influence de ce qui se ferait de façon plus autogérée à la base.
Donc l'État est vigilant. Alors Agnès de Victor, non pas un héros du quotidien, mais un héros tout court apparemment dans la société iranienne, qui est ce cinéaste Morteza Avini, dont vous nous faites le portrait, cinéaste et martyr. Et donc là aussi, c'est un autre élément extrêmement présent dans la société iranienne, qui est la présence de la guerre. Donc peut-être quelques mots sur l'importance de ce cinéaste, et puis sur cette place de la guerre, de la mémoire de la guerre, du rapport à la violence politique et de la volonté aussi de s'en déprendre aujourd'hui. Je pense que c'est à travers le cinéma, on peut peut-être avoir un autre prisme pour lire la complexité de cette société iranienne. Agnès de Victor.
Alors je dirais que le portrait que j'ai fait dans la revue de Morteza Avini, qui est un réalisateur de films documentaires, je dirais pas qu'en fait c'est pas un héros, c'est un martyr, mais qui lui-même refuserait l'idée d'une dimension héroïque et vaste. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est que c'est une des grandes figures en fait de la propagande des années 80, donc des années de la révolution islamique, puis de la guerre Iran-Irak, donc qui couvre 8 ans, 1980-1988. Donc c'est quand même vaste, et c'est un cinéaste donc qui n'était pas d'ailleurs cinéaste à l'origine, qui était architecte, et qui n'était pas vraiment d'ailleurs d'une famille religieuse, qui a étudié aux États-Unis. Et quand la révolution a commencé, son frère lui a dit: mais tu sais, il se passe des choses intéressantes, tu devrais venir. Il est allé à Téhéran et il a arrêté l'architecture, et au lieu de s'engager en politique comme beaucoup de ses collègues étudiants ont fait à cette époque, il a pris une caméra et il s'est dit: c'est en fait en passant par à l'épreuve de l'image et à l'épreuve du fer que je vais comprendre ce qui se passe pendant la révolution. Et quand quelques mois après la guerre éclate, eh bien, il continue en se disant c'est que par le passage à l'acte cinématographique qu'on va peut-être pouvoir comprendre ce qui se passe.
Peut-être quelques mots sur cette guerre, parce que tout le monde ne l'a pas en tête. Et c'est vrai qu'on a vu d'ici, on n'a pas mesuré l'ampleur de la violence, peut-être équivalente un peu à la première guerre 14 pour nous, quelque chose de cet ordre. Vous pouvez donner un peu quelques éléments de la durée de cette guerre, l'ampleur de la destruction, qu'est-ce que ça représentait, et justement la place de ce cinéaste à travers cette violence de la guerre, et ce que ça signifie aujourd'hui.
C'est un petit peu compliqué de parler de la violence de la guerre. C'est vrai que c'est une guerre qu'on a beaucoup comparée à la Première Guerre mondiale. D'abord, c'est une des dernières guerres conventionnelles du XXe siècle, avec des armées, des combats d'artillerie, enfin des tanks.
Des tranchées.
Enfin, c'était pas tout à fait des tranchées, non, c'est des talus. Donc c'est en hauteur, alors que pendant la guerre de 14-18, c'est en profondeur. Mais avec des gaz, avec les masques à gaz. Et donc on a tout cet imaginaire qui est remonté à la surface. Et c'est vrai que là, je travaille sur les JT qui ont été diffusés entre 80 et 88 en France. On a systématiquement comparé les deux conflits. Évidemment, ils sont incomparables pour des raisons historiques, pour plein de raisons, mais ils sont aussi incomparables, je pense, par la violence. Je crois que c'est difficile. On a tendance de dire qu'il y a eu des millions de morts sur 8 ans.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de...
Les chiffres varient énormément, mais c'est moins de 600 000 morts en Iran pour 8 ans de guerre. Ce qui, c'est terrible à dire parce qu'on n'est pas là pour faire des quantifications de cadavres, mais ce n'est pas une guerre de haute intensité. On ne se battait pas en permanence. C'est pas la bataille de la Somme. C'est pas, même s'il y a eu des grandes batailles, ça n'a rien à voir avec, je pense, la déshumanisation qu'a connue qu'a été la Première Guerre mondiale. Mais il y a eu des violences, évidemment, très fortes. C'est un pays qui a énormément souffert, qui a souffert après coup, notamment à cause des gaz, puisque les gaz ont été massivement employés, et donc les séquelles, pour ceux qui ne sont pas morts, se font encore ressentir. Tout à l'heure, Christian Bombarger parlait des chauffeurs de taxi. Moi, je suis frappée par le nombre de taxis que je prends, où les hommes ont fait la guerre, et ils ont soit des cancers, soit ils passent entre deux courses, ils vont à l'hôpital pour se soigner. Enfin, ça reste, la trace, elle est très très présente. Et la guerre a été instrumentalisée par le pouvoir politique. La guerre est devenue finalement l'élément fondateur du régime qui a occulté la révolution islamique, qui est devenue bien trop gênante pour le régime islamique parce que bien trop pluriel à son début. Et la guerre a imposé finalement la mythologie du régime, je pense, elle vient de là. Voilà. Et ce réalisateur est devenu, a voulu faire des films de propagande. Je ne suis pas sûre qu'il y soit vraiment arrivé sur le terme de propagande tel qu'on l'entend aujourd'hui. Mais je crois qu'il a une stature qui dépasse, qui est bien au-delà de cette fonction-là.
Alors justement, en delà de son travail, des quelques éléments de ce qu'il a apporté, et de pourquoi c'est important, pourquoi vous avez choisi d'en faire son portrait comme cinéaste et comme élément pour révélateur, pour parler de la société iranienne d'aujourd'hui.
Peut-être un mot pour dire son importance pour moi en tant que cinéaste de guerre et documentariste de guerre par rapport au grand corpus mondial du cinéma de guerre. Et puis un mot après pour dire la complexité du personnage qui va finir par énormément déranger le régime. Avini décide de filmer la guerre dans le temps même de la guerre, sur le front, vraiment en première ligne, ce qui est quand même assez rare avec un groupe d'opérateurs, et contre la logique de la télévision, qui est maîtresse à l'époque en Iran, qui est très importante, il va imposer une façon de filmer la guerre très particulière en disant sans arrêt à son spectateur, en fait, ce que vous voyez, ce n'est pas la guerre. Et il faut travailler sur l'invisibilité. Tout à l'heure, Mina parlait de l'invisibilité. C'est très important dans la mystique chiite, cette notion-là, entre le visible et l'invisible. Et c'est un réalisateur qui, en plein cœur des combats, pendant ces 8 ans de guerre, va dire sans arrêt aux spectateurs, un, ce que vous voyez, c'est une des formes de représentation, mais ce n'est pas la guerre vraiment. Il va falloir que vous fassiez tout ce chemin, un énorme chemin, pour arriver à comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme dans cette situation de crise, et notamment l'homme croyant. Et il va donc à l'encontre finalement de tout ce qui aurait pu être très épique. C'est pas du tout, ce sont des documentaires hyper répétitifs. Pendant 8 ans, il en fait une centaine. Et ils sont tous très répétitifs, c'est toujours la même chose. Mais justement, il nous invite à aller au-delà des images. Et je crois qu'il a vraiment compris ce que c'est que le cinéma en tant qu'art de l'invisible. Et il va pousser à l'extrême cette dimension-là, bien qu'étant diffusé à la télévision, il va refuser d'être diffusé dans l'urgence des combats. Il va dire non, 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 il faut prendre son temps. Il faut que le spectateur prenne le temps. Et même si ce sont des films qui sont faits, bien sûr, en adhésion à la guerre, il y a une vraie place du spectateur. Alors, et ça, c'est assez, assez intéressant.
Pourquoi est-ce que ce personnage, au fond, devenu très connu, a commencé à poser problème au régime islamique ?
Alors, il est devenu, il n'a jamais été un proche de l'ayatollah Khomeini, même si, enfin, il n'a pas été un de ses disciples à Neufle-le-Château, sa garde rapprochée. Mais c'est quelqu'un qui l'a suivi très vite, et il a, pendant les 8 ans de la guerre, c'est devenu vraiment une de ces figures au service du régime, au service de la guerre. Et puis, il a continué à travailler et à écrire. Il a arrêté pendant un certain temps de faire des documentaires après la guerre. Et il s'est dit, il a fait une véritable réflexion critique sur le cinéma. C'est en ça aussi que c'est un auteur très moderne. C'est quelqu'un qui réfléchit à son outil et aux images. Et qui va écrire un livre colossal de plus de 600 pages, par exemple, sur Hitchcock. Et qui va vouloir le publier. Puis là, quand même, ses collègues les plus islamistes, ils travaillent dans une institution très très proche, enfin au cœur du pouvoir, vont lui dire mais c'est pas possible, vous pouvez pas publier un livre sur Hitchcock. Il dit bah si, parce que c'est le plus grand cinéaste au monde. Et le deuxième, c'est John Ford, et le troisième, c'est Kurosawa. Et donc, il fait trois livres, trois sommes théoriques très importantes sur ça. Et donc, il est à la fois complètement inscrit dans une tradition islamique, chiite, idéologique, révolutionnaire et de la guerre. Et en même temps, c'est quelqu'un qui dit il faut penser l'Occident avec les outils de l'Occident et pas contre ses outils. Il faut s'approprier ses outils et il faut le penser dans une globalité qui ne soit pas contre a priori. Et au contraire, il faut englober. Et il faut adopter les techniques modernes, s'en servir, et réfléchir aussi aux images qui sont faites ailleurs pour pouvoir comprendre notre propre monde. Et là, à partir de ce moment-là, une rupture s'instaure, le livre sera interdit, il va perdre la place qu'il avait, il dirigeait une revue, il la perd. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais compris, donc de ne pas, au moment de la guerre, c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement croyant. Il pensait qu'il serait martyr, puisque les martyrs de guerre étaient des élus, des témoins, des élus de Dieu. Et lui n'a pas compris pourquoi il avait traversé la guerre sans être touché, sans mourir. Et ça a été une de ses grandes interrogations tout au long de ses films. Et il va mourir. Donc, d'ailleurs, on fête aujourd'hui, je remercie la pensée de midi, donc, on célèbre aujourd'hui donc son décès, puisqu'il est mort le 14 avril 1993.
Il est mort comment ?
Il est revenu faire un tournage après la guerre, sur les lieux de la guerre. Et vous savez, l'Iran, c'est le deuxième pays au monde où il reste le plus de mines. Et il a sauté sur une mine. Voilà. Donc c'est devenu un martyr.
Martyr malgré lui.
Martyr qu'il attendait. Aujourd'hui, sa figure est incontestée dans le régime. Il y a des grandes fresques à Téhéran où on voit sa figure. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément gêné, puisqu'il a voulu poursuivre et continuer la réflexion qui avait entraîné la révolution. Il a voulu, vaille que vaille et coûte que coûte, l'entretenir et aller au bout de cette pensée, même si les cadres islamiques du régime ont tenté de le contrôler et de le faire taire.
Alors, Christian Berberger, vous vouliez réagir. On est là, à travers cette figure, encore dans un paradoxe iranien.
Oui, on est dans un paradoxe. Et je crois que le portrait d'Avini, tracé par Agnès, nous montre que la contradiction et la complexité ne sont pas simplement parce qu'il y a des gens qui seraient pour et d'autres contre, des gens qui vivraient à l'occidental, d'autres à l'iranienne traditionnelle ou à l'islamiste, mais que c'est à l'intérieur même de ces sphères que joue la contradiction, aussi bien chez ceux qui se prétendent occidentalisés et qu'on verra un jour complètement subjugués par un rituel et retrouvant la foi de leur enfance ou une foi très profondément enracinée, que chez Avini, qui à la fois fait des films qui témoignent du martyr et qui en même temps fait une œuvre importante sur Hitchcock. Et donc, je crois, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en Iran, c'est ce double « je », pas « je », hein, mais « je ». ce double jeu et qui n'est pas du machiavélisme, qui n'est pas quelque chose qui serait artificiel et conjoncturel, mais qui est plus le fait que quelqu'un qui pourrait tenir à certains moments des paroles voltairiennes pourrait, dans la minute qui suit à l'évocation du martyr du troisième imam, par exemple, tout à coup être saisi d'une foi, d'un ravissement mystique. Et c'est vrai que là, on est toujours sur cette corde raide.
Alors, on parle beaucoup d'Iran. Ce serait peut-être bien d'entendre un peu sa langue, un peu de persan.
Merci beaucoup. Je vous ai choisi un poète très significatif au point de vue genre, parce que c'est un mélange de genres. Je vais vous lire, c'est assez court pour ne pas trop abuser de votre patience. Alors je le lis d'abord en persan et ensuite je vous présenterai mon humble traduction. Tarane andouhbar se hamase. Marg ra parvay an nist ke be angizei andishad. اینو یکی میگفت که سر پیچ خیابون وایساده بود. زندگی را فرصتی آنقدر نیست که در آینه به قدمت خیش بنگرد یا از لبخنده و عشق یکی را سنجیده گزیده کند. اینو یکی میگفت که سر سرایی وایساده بود. عشق را مجالی نیست حتی آنقدر که بگوید برای چه دوستت میدارد. والله اینم یکی میگفت سر و لرزونی که راست وسط چهارراه هر ور باد وایساده بود. Bon, je crois que il y a peu de personnes qui aient pu comprendre dans la salle ce que.
Mais on a une traductrice qui va nous donner justement le texte, mais je crois qu'il était extrêmement important d'entendre la musique de la langue.
Ouais. Merci beaucoup. Bon, alors la traduction. Chant tragique des trois épopées. La mort ne se soucie pas de penser à un mobile. Un type disait ça, planté au virage de l'avenue. La vie ne dispose pas du temps nécessaire pour contempler son âge dans le miroir, ou bien entre le sourire et la larme, faire un choix serein. Un type disait ça, planté au croisement des trois chemins. L'amour manque de temps, même pour dire pourquoi il t'aime. Pardi, un autre type disait ça, un cyprès tremblotant, raide comme un saillie, planté au milieu du carrefour des quatre vents.
Rendez-vous de midi, au sommaire de cette édition du mois de mai, numéro mensuel du Rendez-vous de midi, émission qui s'inscrit dans le travail éditorial de la revue La Pensée de Midi, centrée beaucoup sur Téhéran et l'Iran, à travers la musique à Téhéran, un entretien avec Ariane Zevaco, mené par Elisabeth Sestor, un débat autour du numéro de La Pensée de Midi, L'Iran derrière le miroir, avec Christian Bromberger, Azita Enpartian, Agnès de Victor et Mina Saïdi Charouz. Et un moment de littérature, ou plutôt de poésie, autour de Ossip Mandelstam, du livre de Robert Little, L'Hirondelle avant l'orage, et une actualité, Arthur Rimbaud. Au rendez-vous de midi, une émission conçue et animée par Thierry Fabre, avec Elisabeth Sestor.